Et là, on passe à Bienvenue au Club avec Bertrand Boya.
Bonjour. Bienvenue au Club s'intéresse aujourd'hui à un mythe de la petite reine. Daniel Mangeaz a été le speaker officiel du Tour de France durant 41 ans entre 1974 et juillet dernier. Il a en effet décidé de boucler la grande boucle après plus de 4 décennies de bons et loyaux services. De passage hier soir à Seignelégier, à l'invitation de Jocelyn Jolidon, directeur sportif de la toute nouvelle formation Team Vélo Passion Oumar, il a accepté d'évoquer sa passion à notre micro.
J'avais commencé par commenter des petites courses sur le plan régional, chez moi en Normandie. Et puis un jour, Albert Bouvet, qui était le directeur adjoint du Tour de France, me dit « je te fais venir ». Et il me fait venir à la voiture information devant. Donc j'étais pas pour être le speaker, je le serais peut-être devenu, mais ce qui a précipité les choses, c'est que Pierre Chory, qui était le speaker officiel, est tombé en panne de voiture dans l'étape qui amenait les coureurs à Saint-Lary-Soulan, où nous sommes retournés 40 ans après, en 2014. Et donc, en panne de voiture, Jacques Godet, Félix Lévitan, disait « Albert Bouvet, allez voir votre jeune, faut qu'il nous commente l'arrivée ». J'ai le cœur qui a battu à 150, et je suis allé commenter l'arrivée, et puis c'est Poulidor qui a gagné. Et ce jour-là, Jacques Godet et Félix Lévitan m'ont entendu et ont dit « il a une voix ». Enfin, ils ne me l'ont pas dit à moi, ils se l'ont dit entre eux. Et il a une voix pour être le commentateur du Tour de France. Et quand Pierre Chory, là c'était en 74, et quand Pierre Chory est parti à la retraite, en 76, eh bien je l'ai remplacé et je suis devenu speaker officiel. Donc j'ai commenté depuis 876 étapes. Sans en rater une seule, je les ai toutes commentées. J'ai eu la chance d'avoir une bonne santé.
Vous avez connu une longévité incroyable au micro. Quelle est la recette pour être un bon speaker?
La recette première, c'est, je pense, d'aimer les gens. Aimer le vélo, bien évidemment, le commenter passionnément. Aimer les champions. On n'est pas là pour se mettre en vedette. Si on acquiert une petite notoriété, tant mieux. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de créer une bonne ambiance. En quelque sorte, c'est de transmettre sa passion. Quand vous êtes passionné, que vous êtes sincère, vous ne trompez pas le public, le public le ressent et à partir de là s'établit un véritable dialogue. Moi, ce qui m'a fait le plus plaisir dans ma carrière, c'est quand je suis rentré de mon Tour de France cette année, c'était mon dernier Tour de France, donc les médias l'ont dit, répété en France, et je vois ma femme avec une valise dans le couloir. Je dis « tiens, tu pars chez ta mère ?» Elle me dit « non, non ». Puis elle ouvre la valise, et c'était pas une grande valise, hein, c'était une petite valise, mais c'était toutes les lettres que j'avais reçues pendant le Tour de France de la part de gens. Et là, j'ai eu ma petite larme à l'œil parce que ça fait plaisir de savoir que les gens vous apprécient. Et je pense que c'est la qualité première, c'est de ne pas se mettre en vedette, mais de mettre les autres en valeur. Je crois que c'est ça. On n'est pas là pour parler de soi, mais pour parler des autres.
Durant ces 41 ans, vous avez connu énormément de moments intenses, j'imagine. Quel est le meilleur et le pire souvenir?
Le meilleur souvenir, je dirais, il y en a plusieurs, parce que pour moi, toutes les journées sont belles. Bon, c'est peut-être, je mettrais sentimentalement, quand le Tour de France est venu dans mon village en 2002, l'étape du Tour partait de Saint-Martin-de-Landelle, qui se situe à 20 km du Mont-Saint-Michel, et nous allions à Plouay. Là, c'était un rêve de gosse, parce que quand j'avais passé le certificat d'études primaires, il y avait deux sujets de rédaction. Il y en a un qui s'est évanoui de ma mémoire, mais l'autre, je l'ai bien gardé, c'est celui que j'avais choisi. Racontez le passage du Tour de France dans votre village. J'avais eu la meilleure note, c'était en 1963, et près de 40 ans après, le vrai Tour de France est venu dans mon village, qui plus est, un 14 juillet. Donc, et puis on a fait un DVD donc, que je regarde de temps en temps, plus de 10 ans après. Donc ça a été un moment fort. La première arrivée sur les Champs-Élysées, parce que j'ai commenté toutes les arrivées sur les Champs-Élysées. Et puis, je mettrai également ma première étape à Saint-Lary-Soulan en 74. Le pire moment, ben là, il sort tout de suite, c'est évidemment la chute de Fabio Casartelli et puis son décès en 95. Là, j'ai passé la journée la plus noire parce que c'est surprenant, mais j'avais presque pas vu Casartelli depuis le départ du Tour. Et ce matin-là, je me rappelle comme si c'était hier, il arrive tout seul à la signature, il est le premier à venir signer la feuille de départ. Et comme il est tout seul, j'ai l'occasion et le plaisir de le présenter dans le détail, en disant « voici le champion olympique, Fabien Casartelli, retenez bien son nom, ce sera le champion de demain, etc. » Le public l'applaudit, le départ est donné. Avec mon pilote, on s'arrête, on n'a pas le temps de manger sur le Tour, comme je faisais départ et arrivée. On s'arrête dans une auberge, on prend un sandwich, et au moment où on prend le sandwich, on voit la télé, on voit un coureur en position fœtale, et c'est Casartelli. Et puis après, on part, bon, on ne savait pas s'il était décédé ou quoi, et on entend la voix de Jean-Marie Leblanc qui dit « Casartelli est décédé ». On entend juste, parce qu'après, ça a coupé. Et là, il était acclamé par le public. 2 heures après, il n'était plus de ce monde. Là, j'ai passé la journée la plus atroce. Et j'étais au même hôtel que Gérard Rolls, je m'en rappelle bien, on en a parlé le lendemain matin. Et moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Ma sensibilité se traduit par des haut-le-cœur, des vomissements. Et j'étais malade toute la nuit parce que j'ai trouvé que c'était injuste. Et il n'y a pas un Tour de France où je n'ai pas pensé à lui, parce que, évidemment, le temps passe, mais là, c'était trop brutal. Il était accueilli en héros, et puis après, c'était fini. Ça, c'est la journée la plus atroce.
Vous avez été la voix de la grande boucle pendant plus de 4 décennies. Comment on se prépare avant un Tour de France ?
Ben, un peu comme un sportif. Moi, j'ai la chance de commenter toutes les courses pro. Donc, je m'entraîne, je fais ressortir les palmarès sur les courses. Je vois lequel est bien au Dauphiné, lequel était bien sur Paris-Nice. Et puis c'est une hygiène de vie, donc je n'ai pas les efforts des champions, mais il faut quand même être... Si on est une hygiène de vie, ça se transmet également sur le physique. Et à partir de là, on est en forme. C'est un métier où on se remet constamment en question. Un Tour de France, c'était un peu mon championnat du monde. Je me remettais en question, mais je me remets en question si bien je vais être demain nommé pour le cyclocross. Je me remets en question parce que je veux pas que les gens partent le soir en disant « Tiens, eh ben Mangias, il a été moins bon. » C'est une compétition, quelque part. C'est un petit peu une vie de champion aussi.
Est-ce que vous avez le sentiment que la Suisse a marqué l'histoire du Tour de France?
Oui, la Suisse a marqué. Moi, quand j'étais gamin, on achetait les chewing-gums pour avoir les photos des coureurs. Et je me rappelle 2 coureurs suisses. C'était pas Ferdi Kubler et Hugo Koblet qui ont gagné le Tour de France, parce que je suis né en 1949. C'était plus loin. C'était Rueg et Rolf Graf. Je me rappelle de leur maillot de champion national de Suisse. Mais la Suisse a marqué le Tour de France. Alex Burtin était quelqu'un, un directeur sportif très, très populaire et très apprécié. Puis il y a Hugo Koblet pour son élégance, Ferdi Kubler également pour son charisme. Non, les champions suisses ont été souvent très brillants sur les routes du Tour. Et moi, j'ai mon cousin qui était coureur indépendant, qui avait gagné le test pour les Jeux Olympiques de Rome en 1960. Et il y avait une course qui s'appelait le Grand Prix de l'économie, qui avait succédé au Tour de l'Ouest. Et à Jolidon Papa, le papa de Jocelyn, j'ai amené un classement du Tour de l'Ouest des années 60, où il y avait Magie, où il y avait Zoeffel, qui avait gagné le contre-la-montre. Il y avait La Franquie, il y avait Genoux. Il y avait tous ces coureurs. Il y a toujours eu une culture suisse. Et puis moi, en tant que commentateur, je me rappelle de Beat Breux, qui était dominateur dans la montagne, de Tony Rominger, qui a terminé sur le podium, de Pascal Richard, qui a été champion olympique. On parlait de cyclocross à nommer, il a été champion du monde. Il y a eu également Alex Zulé. Enfin, il y a eu tous ces champions. Il y a eu également Urs Zimmermann, qui a été sur le podium. C'est un petit pays, pas très grand au niveau des habitants par rapport à la France, mais qui a toujours... Et c'est un petit peu ce que je regrette, on fera pas marche arrière. Mais moi, j'ai eu la chance, compte tenu de mon grand âge, de connaître les équipes nationales. Et c'était quelque chose de fort de voir l'équipe suisse, Luxembourg, de voir l'équipe de France, de voir l'équipe de Belgique. Il y avait une identité nationale très très forte. Et les coureurs suisses ont pesé sur le Tour de France. Et je pense qu'il y a Laurent Dufault également qui a été un très bon coureur. Donc il y a toujours eu Jocelyn Jolidon. S'il avait été un petit peu plus sérieux, il aurait pu faire une carrière plus brillante encore, car il avait une belle pointe de vitesse. Heureusement, il a retrouvé donc Denis, qui a été pendant 3 ans son diététicien, et je pense que ça va porter ses fruits.
Bienvenue au club.
Nous sommes de retour en compagnie d'une personnalité hors du commun. L'ancien speaker officiel du Tour de France, Daniel Mangias, est en effet l'invité de Bienvenue au club. Il a commenté la Grande Boucle durant 41 ans avant de poser le micro au terme de la dernière édition. Il a donc un œil tout avisé sur l'évolution de la petite reine et notamment sur le dopage.
Moi, j'étais triste parce que on a identifié le dopage au seul cyclisme. C'est vrai qu'on a été pris la main dans le pot de confiture, mais il y a certains sports qui ont été protégés. Faut avouer les choses comme elles sont. On le sait aujourd'hui. Faut pas rêver. Le PO des années 90 n'était pas uniquement pour les coureurs cyclistes. Il y a certains sports qui refusaient les contrôles. Qui dit refuser dit en quelque sorte qu'il y a un peu un aveu quelque part. Non, mais aujourd'hui, le sport cycliste est peut-être devenu la discipline la plus propre. Et si on faisait les mêmes contrôles que ceux effectués dans le cyclisme, avec le système ADAPS, avec les contrôles en permanence qui sont effectués, on aurait sûrement de sacrées surprises. Autant j'ai été inquiet pour l'avenir du vélo, autant aujourd'hui je suis réconforté. Il faut être vigilant parce qu'on n'empêchera jamais quelques-uns de tricher, mais une grande majorité du peloton est devenu clean. Et après avoir été montré du doigt, je pense que le cyclisme peut être montré en exemple par rapport à beaucoup d'autres disciplines. D'ailleurs, quand on voit le nombre de contrôles effectués dans le cyclisme par rapport au nombre de licenciés, du moins, c'est évidemment le sport le plus contrôlé. Et ce n'est pas là qu'il y a le plus de cas positifs.
Le scandale Festina en 1998 avait fait grand bruit. Comment on vit une telle affaire quand on est de l'intérieur, quand on est impliqué de l'intérieur dans ce sport?
Là, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec Jean-Marie Leblanc il n'y a pas très longtemps, qui était le directeur du Tour de France. Et on se rappelle l'arrivée d'Aix-les-Bains, l'étape d'Aix-les-Bains, où ils sont arrivés à 20h, ils sont arrivés carrément dans le journal télévisé. Et là, j'étais plus speaker, j'étais presque un avocat du Tour de France, parce qu'on se demandait si le Tour allait aller à Paris. Alors, moi, je souhaitais qu'il aille à Paris, parce que à cette époque, une grosse partie du peloton était gangrénée, mais il y avait quand même des coureurs qui étaient clean. Et puis, arrêter le Tour de France serait peut-être été plus difficile de le remettre en route. C'est comme une voiture qui a dératé, faut essayer que le moteur continue de tourner. Et donc, j'avais réussi à séduire, à conquérir le public. Et je me souviens de Laurent Jalabert, quand il est arrivé le soir, il vient me voir. Il me dit, mais qu'est-ce que tu leur as raconté? Parce qu'on a été sifflés toute la journée, ils ont été sifflés pendant toute l'étape par le public, et sur la ligne d'arrivée, ils avaient été applaudis. Et le Tour, je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais le Tour est reparti le lendemain, sans Laurent Jalabert justement, puisque son équipe repartait vers l'Espagne, mais ça a été évidemment un moment douloureux, parce que les Français venaient de gagner la Coupe du Monde de football, c'était des dieux vivants, et puis nous, on véhiculait pendant 3 semaines avec des vilains petits canards. Alors qu'on sait très bien, enfin, 3 points de suspension.
Après, il y a eu la nette domination de Lance Armstrong au début des années 2000. Est-ce que vous avez eu des doutes sur lui durant ces années de commentaires?
Je lisais comme tout le monde, donc il y avait un doute. Moi, je suis partagé parce que je pense que même sans dopage, ça aurait été un grand champion. C'est pas de la langue de bois, je pense que ça aurait été un très bon coureur parce qu'il avait une volonté. Moi, ce que je retiens d'Armstrong, il était chez Cofidis, il avait le cancer, il était en chimio, il n'avait plus un cheveu sur la tête. Et Cyril Guimard, qui était cette année-là le directeur de Cofidis, dit « on va aller faire 100 km ». Et moi, je me suis dit « Armstrong ne va jamais aller rouler ». Il était en pleine chimio. Et le premier qui était sur le vélo, qui était prêt dans le couloir de l'hôtel, c'était Lance Armstrong. Et je ne sais pas s'il a fait les 100 km parce qu'il est revenu le premier, 10 minutes avant les autres, donc je pense qu'il a dû écourter sa sortie. Mais il est revenu et il est allé vomir dans les toilettes, donc il est allé jusqu'au bout de lui-même. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Bon, il était prêt à y arriver par tous les moyens, comme le sont en général les Américains, dit-on. Mais je retiens cette image-là. Donc, c'est sûr qu'il a triché, mais j'ai quand même en souvenir cette image-là. C'est vrai que je pense que l'histoire était belle, parce que revenu du cancer, ça aurait été, même s'il avait fait que 5e ou 6e sans tricher ou 7e, ça aurait été beaucoup plus beau. Je crois qu'il n'avait pas besoin de cela pour être admiré par le public. C'est dommage, c'est dommage.
Actuellement, est-ce que vous pensez qu'un cycliste peut remporter le Tour de France à l'eau claire?
Oui, bien sûr. Moi, je discute avec beaucoup de coureurs, et notamment des anciens, parce que j'ai une culture qu'on appelle l'ivresque. Donc, j'ai la chance d'être ami avec ma première idole quand j'étais gamin, qui était Henri Anglade. On se téléphone toutes les semaines. Et Henri me disait qu'il avait fait le Tour de France à l'eau claire. Et puis, on parle entre nous. Il n'y a aucune raison qu'il me mente. Et il y en a beaucoup d'autres. Non, il y a la possibilité. Maintenant, d'autant plus que la diététique a fait des progrès intéressants et énormes. Donc, ils peuvent récupérer en prenant des produits tout à fait autorisés qui ne sont pas des produits dopants. Non, je pense que c'est tout à fait faisable. Il y a des coureurs qui ont été exemplaires tout au long de leur carrière et aujourd'hui, une grande majorité du peloton qui l'est. Il y a un des coureurs dont on cite la moralité, et je parle sous le couvert de Jocelyn qui est à côté de nous, c'est Charlie Mottet. Tout le monde dit de Charlie Mottet qu'il a été un coureur absolument exceptionnel et ça ne l'a pas empêché d'être maillot jaune et de faire 4e du Tour.
Comment vous voyez l'évolution du dopage dans le cyclisme à l'avenir?
Moi, je pense que là, c'est plus le sujet de conversation chez les coureurs. Moi, je vois la jeune génération très heureuse de pratiquer ce sport. Donc, je crois que c'est loin d'eux tout cela. Et je pense, loin de beaucoup, de la grande majorité des docteurs d'équipe également, si tout le monde continue de respecter les règles du jeu, je pense que d'autres sports seront touchés bien avant le vélo.
Toute la passion de Daniel Mangaz pour le vélo est à réécouter en podcast sur notre site internet. Et Bienvenue au Club revient samedi prochain avec un numéro consacré au Unihockey. Je vous souhaite un bon week-end.
Bienvenue au Club.